France Inter, le 7-9.
Et l'on parle, Claude, ce matin d'un fils.
Un fils qui s'appelle Kevin et dont je vois dans la Provence d'une vieille photo un visage encore rond d'enfance. Il s'appelle Kevin Brinsolaro et il est flic et depuis hier, lige affecté à l'unité de police secours de Fontenay-sous-Bois après avoir été adjoint de sécurité puis être passé par un centre de rétention. Kevin, simple flic comme son père avant lui, Kevin, fils de Franck Brinsolaro, qui était le grand policier chargé de la sécurité de Charbes, patron de Charlie Hebdo et qui est mort comme Charbes il y a 5 ans quand deux djihadistes sont venus tuer dans un journal libre. À l'époque, Kevin, CAP d'électrotechnique en poche, ne se voyait pas faire comme papa, mais papa est mort, un héros, et Kevin est devenu policier pour reprendre le flambeau et pour se venger. Il voudrait un jour intégrer l'antiterrorisme, je ne sais pas si j'en serais capable. À Marseille, me dit aussi la Provence, l'oncle de Kevin, lui s'appelle Philippe, il était le jumeau de Franck, se force chaque matin à vivre. Il travaille sous un grand poster de son frère. Philippe Brinsolaro est un des patrons de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, un flic également. Une famille de flics, les flics que l'on aimait et que d'aucuns conspuent désormais, les flics dont une activiste voulait dévoiler les noms et les adresses sur les réseaux sociaux, me dit le Figaro, les flics qui se suicident, me rappelle le Parisien, et qui cherchent de l'entraide sur une page Facebook, les flics, la famille des Brinsolaro. Nous voilà donc 5 ans après l'attentat de Charlie et chacun peut le dire ce matin à son cœur. Le Dauphiné et la Croix croquent en une les victimes du 7 janvier 2015 qui sans doute sont des anges qui sourient et leurs crayons sont des cierges. Le Figaro titre sur l'islamisme, Libération se dit toujours Charlie. Mais il n'est de Charlie que dans Charlie lui-même qui en cet anniversaire de son deuil ne joue pas le jeu des larmes faciles. Charlie vit et donc choisit sa colère. En dessin de une, Coco, que les terroristes menaçaient, montre un dessinateur à terre. Ses bras et sa langue sont écrasés, mais pas par un barbu djihadiste, non, par un smartphone, orné de logos de Twitter, de Facebook et de Snapchat, ces réseaux sociaux qui seraient, dit le journal, les nouvelles censures, les nouvelles dictatures. Et voilà Charlie, dans une mauvaise humeur splendide et roborative contre une époque où ce n'est plus l'État qui agresse la liberté d'expression, mais la société elle-même passionnée de censure. Et Charlie alors dit merde, merde aux petits connards et petites connasses qui pérorent à longueur de pétitions débiles, de proclamations sentencieuses et se croient les rois du monde derrière le clavier de leur smartphone. Ceci est de Riss, le patron désormais, en tête d'un numéro forcément dérangeant contre les alchimistes du bien que parfois nous sommes, un numéro qui titille l'actualité de nos bonnes mœurs. Antonio Fischetti se souvient que dans le film Beau-père, Patrick Devers couchait avec sa belle-fille de 14 ans et nul n'accusait Blier de pédophilie. Juin, le petit dernier de la bande, dessine une petite fille qui conteste les comptes que lui lit son papa. Mais pourquoi les voleurs d'Ali Baba sont-ils tous arabes? Pourquoi le grand méchant loup est-il noir? Alors papa lui lit le journal d'Anne Frank, elle ne dormira pas. Philippe Lançon s'exaspère des anglo-saxons qui avertissent contre Gauguin qui eut des relations sexuelles avec des jeunes filles. Gauguin, dit Lançon, que peut désormais condamner sans connaître son œuvre le premier imbécile venu. Lançon, lui, voudrait connaître l'opinion de Houellebecq sur Gauguin. Personnellement, je m'en fous, mais j'aime cette idée dans Charlie réveillé, Charlie inégalé.
On parle aussi ce matin des élites économiques.
Qui, avant de diriger le monde et nos firmes, jettent leurs gourmes dans des écoles prestigieuses, sur des campus fermés, HEC, SEC, IDEC, où des garçons organisent des fêtes, des soirées, des discussions. Les filles sont de la chatte fraîche que l'on évacue sur des PowerPoints avec noms et photos, de longues jambes qui ne demandent qu'à être écartées, un corps sensuel qui ne demande qu'à être déshabillé, une très faible résistance aux vapeurs de l'éthyle, en fait une proie toute désignée. Et parmi les étudiantes, ces étudiants élisent la pute du mois. Et cette réputation peut suivre l'étudiante jusque dans son premier emploi. Tout ceci est dans Mediapart, dans une enquête magistrale qu'il faut lire avec la même intensité que l'on a lu Charlie, car il faut aussi bien refuser la pudibonderie, qu'être capable de voir les salauds que tolère un système. Il faut aussi savoir doser le sourire et l'écœurement devant les complaisances mondaines que décrit minutieusement Le Monde, il est en kiosque, dans une enquête sur le prix Renaudot de l'essai 2013 que Gabriel Matzneff obtint, aidé amplement par un membre du jury et écrivain lui-même, qui était aussi parfois son compagnon de voyage aux Philippines, où Matzneff couchait avec des petits garçons. Splendide article, les mœurs sucrées qui ont fait place désormais au lâchage. La fin du papier est splendide. Les statues du vieux monde semblent déboussolées, Matzneff aussi. Le Point vient de mettre fin à sa chronique. Après 30 années d'impunité, que se passe-t-il tout d'un coup? S'il faut vous consoler et croire quand même aux grands hommes, allez faire un tour sur Varmatin et lisez l'histoire de Lina Picazos, mais en espagnol on prononce Picasso. En 1958, elle avait 14 ans, le bel âge, elle servait des glaces dans un café où vint s'installer Picasso, le vrai, le grand, et sa femme Jacqueline. Il parla avec Lina, lui fit un dessin, forcément.
Et un médecin, Claude, pour finir.
Donc parle Lacroix et dont le Progrès de Fécamp, édition locale de Paris-Normandie, fait sa une. Il s'appelle Jean-Méheu Ferron, exerce dans le pays de Caux, ou plutôt, depuis la fin novembre, n'exerce plus. Il est soupçonné d'avoir euthanasié des malades en leur donnant un sédatif puissant que lui fournissait son épouse, médecin anesthésiste. Lui dit qu'il ne faisait que soulager des peines et des douleurs. L'affaire a été révélée par Paris-Normandie qui, depuis la suit. Pour des médecins de campagne, elle devient emblématique de leur droit à aider. Ils pétitionnent par centaines pour le docteur du pays de Caux. C'est une journée, voyez-vous, où l'on parle de choses graves et de liberté.
Merci Claude pour cette revue de presse.